Chapitre 3. On lui a demandé « Comment vous appelez-vous » Elle a dit
« D'ailleurs, Alphonsine. »
« Mariée ?»«
Veuve. »
« Vous avez des enfants ?»«
Deux. »
« Vous habitez chez votre mère ? Où est-elle ? » ?»«
Elle est chez une sœur qu'elle a. »
« Oh !» disait Alphonsine.
« Elle est vieille. Elle est à moitié paralysée. »
Un monsieur vous interrogeait. Il y avait un secrétaire qui écrivait sur un coin de table les demandes et les réponses. « Vous n'étiez que les deux ?»«
Non, j'ai une sœur. »
« Comment s'appelle-t-elle ? » ?»«
Cremin. Germaine. »
« Où est-elle ? » ?»«
Je sais pas. »
« Eh bien, il faudra aller la chercher. » Et puis l'interrogatoire continuait. On demande à Alphonsine, « C'est dans votre maison que le feu a pris ?»«
Non, dans le fenil. »
« Qu'est-ce qu'il y avait dans le fenil ?»«
Du foin pour la chèvre. »
« C'est tout ?»«
Oh, mon Dieu, est-ce qu'il me soupçonne ?»
Elle cherchait à s'expliquer. Elle expliquait. Elle disait qu'elle dormait, sa sœur aussi, et que c'était sa mère qui l'avait appelée. Les vieux, vous savez, ont le sommeil léger. Et que ça sentait le brûlon qu'elle avait ouvert la fenêtre, et qu'il était déjà trop tard pour essayer d'étouffer le feu comme elle avait tenté de faire. Ça est parti en l'air, c'est la flamme, elle disait, toute droite, comme quand on lève le bras. Quelle heure était-ce ?
Je ne sais pas, j'ai pas regardé l'heure.
À peu près.
Vers les 1 heure du matin.
Et qui est-ce qui a été dans le fenil en dernier lieu ?
Moi, comme tous les soirs. J'ai été voir si c'était bien fermé.
Vous aviez une lanterne ?
Non, il faisait encore jour.
Vous êtes assuré ?
Je crois.
Pour combien ?
Je ne suis pas sûre du chiffre. Est-ce qu'ils vont croire que c'est moi qui ai mis le feu ? Pourquoi faire ?
Ah ! Pensait-elle.
Pour toucher l'assurance. Parce que la maison est vieille, et la somme qu'on nous verserait permettrait de la rebâtir. Mais c'est pas vrai, monsieur, c'est pas vrai ! C'est pas vrai !
Et avait eu de la peine à se retenir de crier la chose tout haut, ce qui aurait peut-être aggravé les soupçons pendant qu'on la questionnait de nouveau et qu'on allait chercher Germaine qui était sortie un moment avant et qui n'avait pas reparu. Il y a dans le village un homme qui donne à boire. Il s'appelle Deventerie. Ce n'est pas un vrai café, c'est une pièce au rez-de-chaussée avec des bancs et des tables. On peut voir par les fenêtres sans rideaux ce qui s'y passe. Deux petites fenêtres percées dans le mur épais, mais les croisées étaient grandes ouvertes, et le monde regardait. Deux ou trois hommes, des femmes, surtout des enfants. Ils se tenaient penchés vers les fenêtres, ce qui faisait deux groupes, aux têtes rapprochées, qui se rejoignaient par la tête, l'un devant l'une des fenêtres, l'autre devant l'autre, considérant en silence ce qui était à l'intérieur. Une cuvette d'émail, un paquet d'ouates à moitié défait, des bandes enroulées, deux ou trois bouteilles, et puis, assis tout à côté dans le bon jour, un garçon nu. Un beau garçon, large d'épaules, la peau brune, avec des muscles qui faisaient saillie sur la poitrine et des bras, qui étaient noirs, jusque plus haut que le coude. Un beau garçon, de 20 à 25 ans, en pleine force, mais drôlement arrangé, parce qu'il n'avait plus de sourcils et de moustaches, et sur le devant de la tête plus de cheveux, mais une large tache rouge, avec une enflure, qui lui cachait l'œil droit. On lui disait « Je te fais mal ?» Il hochait la tête. Et ça devait lui faire mal tout de même, parce qu'il serrait les mâchoires et tenait de même ses mains fortement serrées l'une dans l'autre sur ses genoux pendant qu'on lui lavait ses blessures. C'est un médecin, un jeune médecin venu de la ville, qui avait une blouse blanche, qui lui disait de nouveau « Il te faut avoir un peu de patience. » Il était en train à présent de lui bander la tête, passant la bande tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de l'oreille, de sorte que le garçon a eu pour finir comme un casque mis un peu de travers, sous lequel l'œil droit avait disparu. Et elle, elle avait mal, encore plus que lui. Elle était là et se tordait les mains sans rien dire sur son tablier quand elle voyait le morceau d'ouate aller et venir sur les plaies à vif, s'empêchant tout juste de crier « aïe » et puis de nouveau « aïe » parce que le médecin descend avec ses mains précautionneuses et disait « Ça va bien, courage mon garçon, on aura bientôt fini. » Et voilà cette fois qu'on lui colle deux bandes de sparadrap sur le côté du menton. Et elle se disait
« C'est à cause de moi qu'il est pareillement brûlé. Et là encore, à la place du cœur. »
Et souffrait dans sa chair. Mais ce qui faisait grandir son amour. Et c'est quand même une bonne chaleur, un drôle de mélange. Elle considérait ce corps tout charbonné, le poil brûlé. Et elle pensait
« C'est mon bon ami, et comme il est beau !»
Elle pensait
« il est à moi pour toujours !»
Et en même temps
« Mon Dieu, comme il est abîmé !»
Parce que le médecin, à présent, avec une serviette, était en train de lui laver le corps, ce qui a fait apparaître les meurtrissures dont il était couvert.
« Mais ce qu'il a fait m'a montré combien il m'aime, et moi je l'aime d'autant mieux. Je l'aime jusqu'où on ne peut plus. »
Aïe, c'est à présent l'épaule. « Ça y est, disait le médecin. Et la douleur du corps est passée, et aussi l'autre en ce moment parce que le médecin s'était mis à bander l'épaule de Constant Luyet dans cette chambre d'auberge. Te voilà tout neuf. Et puis, dans 15 jours, il n'y paraîtra plus. Tu pourras de nouveau faire le beau avec les filles. Et elle ?»«
Les filles ? Il n'en a qu'une, et c'est moi. »
S'étant alors avancée pour tâcher d'être vue par lui et peut-être de lui parler, mais on l'avait prise par le bras. « Il te faut venir, on te cherche. » Elle a dit
« Qui ça ?»«
La justice. » Elle a dit
« Je m'en moque de la justice. »
« Ah, tu sais, disait-on, ça peut te valoir des embêtements. » Alors, elle l'a salué silencieusement par la fenêtre dans le joli soleil qui venait d'entrer dans la pièce où Constant s'était mis debout et le médecin lui serrait la main. Elle se retourne encore. Tout va bien. Elle s'est laissée emmener. Elles étaient installées les deux avec les enfants chez des vieilles gens qui avaient une chambre libre. Leurs enfants, à eux, étaient mariés. Elle y a retrouvé ces messieurs de la justice, qui l'ont interrogée à son tour inutilement parce que ses réponses avaient été les mêmes que celles d'Alphonsine. On entendait par les fenêtres qui étaient ouvertes les gens aller et venir, et ils étaient déjà nombreux, les visiteurs. Devanterie devait faire de bonnes affaires. Une voisine s'occupait des petits, qu'on entendait pleurer dans la cuisine.
Ah, mon Dieu, c'est Alphonsine. Où étais-tu ?
Disait-elle à sa sœur. Elle s'était assise sur le lit défait, et là, toute décoiffée, les mains appliquées l'une contre l'autre entre ses genoux, elle se lamentait, disant
« Tu avais bien besoin de me laisser seule. Tu n'aurais pas pu arriver plus tôt. Qu'est-ce qu'il fallait que je leur réponde ? Ils croient que c'est moi qui ai mis le feu. » « Voyons,
disait sa sœur.
« que si,
disait Alphonsine.
« Ou bien toi, ou bien nous deux. Combien c'était ? Quoi ? Le montant de l'assurance ? 8 000. Tu vois ? Tu es folle. Ils voulaient seulement se renseigner, c'est naturel. Où est-ce qu'ils sont ? Chez la mère. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut bien qu'ils questionnent les gens. Et qu'ils nous questionnent d'abord, bien sûr, puisque le feu a pris chez nous. « Oh, non !»
disait Alphonsine.
« Dieu sait ce qui va arriver. Il y a déjà eu trop de malheurs. Mon mari, mon pauvre mari !»
On entendait causer le monde dans la rue.
« Le foin, c'est le foin !»« Méfiez-vous, le foin mouillé !»« 60, 70 degrés quand il fermente !»« 60 !» 70 degrés. Fourzy la main si tu veux savoir.
On disait des choses qu'on pouvait comprendre, les fenêtres n'étant guère qu'à hauteur d'homme et le passage étroit comme on a vu.
Échauffement ? De l'amadou ? Ça bourbe. Ça peut bourmer des jours et des jours.
Bourmer, c'est quand le feu couve, dans la profondeur, sans qu'on remarque rien au dehors.
Tout à coup, ça éclate.
Mais Alphonsine, elle ne semblait rien entendre, disant
« 27 ans. 27 ans et demi tout juste. En pleine forme. Un bel homme. Combien ça va-t-il faire ?»
Elle comptait sur ses doigts.
« Décembre, janvier, février, 8 mois. Et ça part le matin sur ses deux pieds, et le soir, on vous le ramène. C'est-il juste ? Un malheur, un premier malheur. Et,
disait-elle,
tu te souviens, Germaine,
disait-elle,
tu te souviens, la poitrine écrasée, c'est que c'est lourd, un tronc de sapin. Ils tapent comme des fous, ça prend point de précaution. Ils disent qu'ils ont l'habitude. Ils tapent avec leur hache tant qu'ils peuvent, et tant pis pour celui qui n'a pas pu se garer à temps. Crac. Et mon pauvre mari qui est en dessous, ça en fait un premier malheur. Et ses enfants, toujours malades. À présent, la maison qui brûle. Et puis nous, pour finir. Qui sait si on n'ira pas en prison ?
Elle s'était mise à pleurer. Les coudes sur les genoux, la tête dans ses mains. Elle s'était mise à pleurer avec de gros sanglots qui faisaient que ses épaules à intervalles réguliers étaient soulevées. Ses épaules étaient soulevées. Ses épaules retombaient. Mais Germaine...
À quoi est-ce que tu penses ? À quoi est-ce que tu penses, Alphonsine ?
Parce qu'elle, elle pensait...
Le médecin a dit 15 jours et puis il sera guéri.
Elle était sur une chaise au pied du lit. Elle levait la tête.
Tu te fais des imaginations pour rien. Tu as eu des malheurs, c'est sûr. Mais pourquoi veux-tu qu'ils durent toujours ?
Elle pensait...
C'est rien. C'est le fin dessus de la peau seulement qui a brûlé. Ça fera rose. C'est quand il a sorti nos meubles. C'est une preuve, ça. Que veux-tu ? Il faut bien se résigner. Seulement, à quoi bon penser à ce qui est fait ? C'est du passé. Il y a les choses.
Oh ! Pensait-elle.
Ça fera des places roses. Des tout petits ronds. Des ronds roses.